RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, la farce a bien failli se muer en très mauvaise blague pour le 15 de la Rose, miraculeux vainqueur de l'équipe de France hier en finale de la Coupe d'automne des Nations après prolongation. Match incroyable, les bleus stupéfiants qui ont déjoué tous les pronostics. Comment expliquer une telle performance? Nos réservistes sont-ils au niveau des meilleures équipes mondiales? On en débat dans un instant avec l'équipe des poteaux, emmenée par un garçon qui est passé hier à côté du jackpot. Et oui, malheureusement Denis, pour une fois, t'aurais dû parier sur le match nul à la fin du temps réglementaire.
À la mi-temps,
tu es passé à côté d'un gros jackpot quand même. Hein.
Pas parier au bon endroit.
Les poteaux aujourd'hui, ce sont aussi les tauliers. Jeff Paturo, patron de la rubrique rugby d'RMC, qui nous revient de Twickenham. Salut Jeff.
Salut Christophe, bonjour à tous.
Et Manu Massicard, le directeur de Midi Olympique. Il paraît qu'il y avait une ambiance extraordinaire à Middle hier pendant le match.
Manu. Ouais, les murs ont tremblé. Salut, bonjour à tous.
Dans cette émission, nous allons aussi décerner les prix de cette tournée d'automne. Et le frelon d'or, nous avons décidé de l'attribuer au staff du 15 de France dans son ensemble, avec mention spéciale à Sean Edwards, le sorcier gallois de la défense. Enfin, dans notre boîte à gifles, on évoquera le règlement de cette Coupe d'Europe, la mort subite, mais aussi l'arbitrage qui, étonnamment, ne nous a pas vraiment été favorable en fin de rencontre. Voilà donc pour le programme. Tout de suite, retour à Twickenham, sa farce et ses dindons.
L'action, liée, jeu.
La logique, c'est qu'on soit massacré.
Il faudrait peut-être que l'Angleterre déclare forfait ou qu'il y ait de trop de cas de Covid dans leur rang, que le match soit annulé, que la France l'emporte.
C'est bon pour Owen Farrell, c'est bon pour Kouyou et c'est parti. Laissez français de Brice Dulin. Laissez français sur cette magnifique inspiration de Jalibert. La fin de passe et sur l'extérieur, il allonge sa passe pour Brice Dulin qui vient marquer le premier essai.
Il faut plaisir à voir, il faut plaisir à voir. Sur le pied droit, le ballon qui ramasse tout de suite son tir, ça passe entre les poteaux. Et ça fait 13 à 6 pour la France, hein. C'est une bataille, mais c'est une bataille incroyable.
Là, l'équipe de France ne respecte absolument pas le vice-champion de monde.
Il s'élance, Farrell. Oh, il a loupé. Il a loupé. J'ai vu, il ramassait Palotti. Il ramassait Palotti, il regardait le ballon. Et il a loupé cette pénalité, 25 mètres face au perche. Ce ballon qui part bien. Poteau rentrant. Poteau rentrant pour Louis Carbonel. Est-ce qu'il y a essai pour les Anglais? Andrew Bryce essaie. Ah, essai de l'Angleterre.
Je reste admiratif pour l'équipe de France.
Et le ballon qui passe entre les perches. Voilà. 19 à 19. Ah. Allez, il s'élance ce ballon dans les airs. Oh, c'est juste. Ouais. Oh, poteau. Le poteau. Oh, le poteau est sans ressort. Il s'élance ce ballon qui part et il lève le bras. Ouais. Ça passe. Yes. Ça passe, la victoire de l'Angleterre dans cette Coupe d'automne des Nations après prolongation. 22 à 19 face aux Français. Mais ces jeunes Français auront été magnifiques.
Voilà, épilogue cruel pour cette jeune équipe de France héroïque tout au long de la rencontre et qui aurait vraiment mérité de l'emporter. Les Bleus qui n'ont plus gagné dans le temple du rugby anglais depuis 13 ans maintenant. Et donc, 8 défaites, car ce match, une nouvelle fois, c'est donc achevé par un revers au bout du temps, du suspense et de la mort subite. C'est cruel, Denis, évidemment, pour ces Bleus qui nous ont enthousiasmés. On n'attendait pas grand-chose de cette Coupe d'Europe des Nations, mais on a été quand même servi avec cette finale.
Oui, on n'attendait pas de voir un match de telle intensité, d'un tel niveau, surtout par rapport nos petits bleus qui a très peu d'expérience, puisqu'il y a beaucoup de qui débutaient sous le maillot bleu. C'est ça qui est incroyable. Et moi, j'ai été bluffé par la performance. Oui, quand tu regardes le match, tu te dis à un moment donné, ils vont s'essouffler. À la 50e, 60e, ils vont craquer. Et puis tu vas finir par prendre 20, 30 points. Et finalement, ils ont concassé. Ils ont fait pas jeu égal. Ils ont dominé les Anglais. Ouais. Les Anglais n'avaient pas de parade, n'avaient pas de solution. On était très stériles. Mais parce que les Français se sont démenés, ils n'ont eu aucun complexe. Et en fait, j'appelle ça la génération décomplexée. Voilà, c'est une génération qui a été championne du monde des moins de 20 ans, deux fois, je crois d'ailleurs, ouais. Pour la plupart. Donc, ils ont une confiance en eux qui est inébranlable quelque part.
Alors, franchement, on va pas se mentir, personne n'aurait pu imaginer que la France soit capable, à 30 secondes de la fin du temps réglementaire, de dominer l'Angleterre et d'être au bord de remporter cette Coupe d'Europe des Nations. Manu, est-ce que tu imaginais une seule seconde un match d'une telle intensité de la part des réservistes qui n'ont aucun, deux, trois entraînements en commun dans les pattes, quoi.
C'est comme au bon vieux temps quand on dormait à la voisine, ouais, et aux écuries, ouais, au Château Ricard, que Denis et ses potes partaient la nuit à la conquête de Paris.
Et pas que de Paris.
Ça ressemble
je l'ai fait
à
une
ça.
Fois, j'étais remplaçant, hein, je n'étais pas titulaire.
Aux écuries, tu dormais?
Ouais, une fois.
Ouais. Non, blague à part, j'ai pas été étonné de l'intensité que ces joueurs ont mis en début de match. J'ai été surpris par leur capacité à résister sur la durée, mentalement et physiquement, et aller faire déjouer les Anglais. Ça m'a surpris, oui. En suivant, leur générosité ne m'a pas surprise. C'est une génération qui est habituée à gagner. C'est une génération qui est habituée à jouer ensemble.
C'est la culture de la gagne, qui est programmée. Exactement. Ouais, qui est programmée pour
gagner. Et j'aime pas ce mot travail, tu sais, programmé, Jeff. Mais il y a de ça. Il y avait véritablement de ça. Ils ont pris des habitudes. Ils ont été champions du monde ensemble chez les gamins. Ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils évoluent ensemble, ils se connaissent tous et on en voit ce résultat. Après, il y a la peur. Hein. Ils savaient très bien qu'ils allaient en prendre.
On peut remercier les Anglais, honnêtement. La farce française, la mascarade, quand on voit Raphaël Ibanez qui prend la parole avant la composition d'équipe à Marcoussis dans la semaine, quand on voit Baptiste Couillou la veille du match qui dit on va pas se faire marcher dessus, il y a une trouille positive et je pense que ça les a resserrés.
Merci la suffisance anglaise.
Je sais pas qui on va donner des armes à leurs adversaires.
Moi, je suis pas d'accord avec cette analyse-là. Évidemment que c'est un ressort formidable de motivation, pour décomplexer le groupe. Mais après, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que tu parles de générosité, Manu, bien sûr. Mais après, c'est surtout physiquement, ils ont gagné tous les duels. C'est-à-dire quand tu vois les Anglais qui sont vice-champions du monde avec la capacité qu'ils avaient à gagner les duels.
Oui,
avant,
mais le petit supplément d'âme.
Ouais, on avait un truc en plus de
l'âme. Non, mais supplément d'âme, tu fais pas gagner les duels contre les Anglais. Je suis désolé. Ils sont partis sur le cul, les Anglais. On les a renversés.
Tiens, on va écouter Brice Dulin justement à ce sujet, qui nous raconte l'impression qu'il a eue sur la pelouse, notamment en première mi-temps.
Je pense qu'ils ont voulu nous matraquer et nous enfoncer avec du jeu direct. Et quand on voit l'énergie qu'on dépense et on arrive à rentrer en courant au vestiaire, eux marchaient, ils étaient totalement groggy un petit peu. On a l'impression qu'ils étaient KO debout, de ne pas nous avoir fait craquer. Donc on avait pris cette petite ascendant psychologique qui, sur la deuxième mi-temps, aurait pu vraiment nous permettre de tuer le match. Ils ont su peut-être mieux gérer les choses.
Mais c'est comme un combat de boxe. Hein.
Denis, on n'est pas plus fort que physiquement sur la première mi-temps. Ce qui fait la différence, c'est l'envie, c'est sans doute la peur d'en prendre 30. Et oui, il y avait ce supplément d'âme qui les a fait se transcender et sans doute retourner plus de viande qu'ils n'auraient jamais
eu. Je te suis et je pense que la culture de la gagne qu'ils ont emmagasinée au niveau international a fait la différence.
Mais ça a affaibli les Anglais qui sont arrivés sur la pelouse en disant on va faire qu'une bouchée de ces petits bleus. Un peu comme quand l'équipe de France joue face à des adversaires réputés moins forts. Et les Anglais sont tombés dans le piège.
Mais quand tu joues les Blacks, t'as pas besoin de te préparer. Tu te prépares naturellement. Là, il faut trouver justement des ingrédients, des ressorts. C'est compliqué de préparer des matchs comme ça. Mais quand même, quand t'as Eddie Jones, quand t'as le staff anglais, tu te dis quand même les ressorts, tu vas les trouver. Je suis désolé.
Oui, mais rappelle-toi qu'Eddie Jones avait dit un peu la même chose lors du match du tournoi, hein, Jeff.
Oui, effectivement. Mais c'est vrai que là, faut rappeler aussi ce qui s'est passé la semaine dernière. Tout ce qui concerne cette farce, ça n'a jamais été prononcé par le staff
c'est
la presse. Et quand Ben Youngs est interrogé il y a 10 jours, savoir ce qu'il en pense de cette farce ou pas éventuelle, il dit oh non, mais je pense que les Français vont arranger ça et qu'ils vont la grosse équipe. Au départ, ils étaient dans l'incompréhension, les joueurs. Sauf que les joueurs français, eux, ils ont bossé comme des chiens à Marcoussis. L'entraînement à haute intensité encore était très impressionnant. Et les Anglais, en plus, voulaient prendre leur revanche par rapport au mois de février. Et pourtant, comme on le dit, pour moi, il y a vraiment un supplément d'âme. Je suis entièrement d'accord avec
vous. Bien sûr, non, mais supplément d'âme. Oui, mais ça fait pas tout. Je veux dire, là, c'est.
Mais non.
On a la preuve que ces garçons, aujourd'hui, pour moi, la lecture de ce match, c'est qu'on a la preuve que ces garçons sont au niveau. Ce qu'on ne savait pas forcément avant. Et là, ça change la donne.
On savait, Denis et Manu, qu'on avait une équipe de titulaires qui était au niveau.
Oui, mais est-ce qu'on savait qu'un Pesanti, un Gérassi.
Non, ça on ne savait pas.
Pouvaient élever leur niveau de jeu comme ça.
Non,
on ne savait pas. On ne savait pas.
Non, pour moi, c'est le cadre qui fait la différence. La victoire de Galtier, c'est d'abord d'avoir trouvé Raphaël Ibanez.
Un vrai mec qui
pèse et qui sait faire monter la mayonnaise, qui sait aussi travailler sur la cohésion du groupe. Mais Galtier a créé une exigence, a imposé une vision et un respect du maillot. Les joueurs, ils viennent en équipe de France, ils savent qu'ils doivent se dépouiller. Tu prends les mêmes il y a 5 ans,
Manu,
ça n'aurait jamais gagné. Tu prends les mêmes sous Saint-André, ça n'aurait jamais gagné. Arrêtons de nous mentir.
Non, il y a aussi, il faut le dire, que le staff a été mis dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'avant, le staff coûtait 1 million d'euros ou 1 million et demi d'euros. Aujourd'hui, il coûte 5 millions d'euros. Il faut parler de chiffres. C'est-à-dire qu'on leur a mis toutes les.
Ça suffit pas, Denis.
Non, mais si.
C'est essentiel, mais ça suffit pas.
Non, mais je dis ça parce qu'on a mis tout toutes les compétences à tous les endroits. On a pris le meilleur défenseur, comment dire, le, comment il s'appelle?
Sean Edouard.
Alors, vous êtes en train de me casser le deuxième débat, là. On va en parler dans un instant. Parce qu'on va décerner le frelon d'or, quand même.
Juste aussi, merci les Anglais. Et merci aussi peut-être à l'accord entre la Ligue et la Fédé.
Oui, alors.
Merci au top 14. Oui, enfin. Merci au top 14, surtout.
Non, mais merci au top 14. D'accord. Vous êtes bien gentil, mais quand même. Ça ressemblait quand même à une farce. Moi, je trouve que c'était un manque de respect d'envoyer la réserve face à J'ai changé d'avis parce qu'effectivement, les Français ont montré de belles choses. Mais quand même, quelque part, moi, si j'avais été anglais, ça m'aurait
Christophe,
fait un
c'est
peu
le choix
mal.
C'est le choix de Galtier.
Je vais totalement.
C'est le choix de Galtier.
Christophe a raison. Ce choix de Galtier, il était simple. Il a choisi le choix par défaut. Mais il pouvait pas faire autrement. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on va dans une coupe comme ça et que tu vas faire jouer l'équipe 2, c'est pas terrible, quoi, face à la meilleure équipe du monde, une des meilleures équipes du monde.
C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs souvent lors des tournées du mois de juin, lorsqu'on envoie aussi de jeunes équipes se faire étrier en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en Afrique du Sud. Et ça suscite les mêmes débats de la part de la presse kiwi, qui nous fracasse à chaque fois qu'on envoie une équipe B ou une équipe C.
C'est normal, c'est une tournée en bois,
bien sûr.
Par contre, la plus belle image du week-end, quand même, c'est le sourire, la joie d'Eddie Jones à la fin du match, quand même. Ouais. Je sais pas si vous avez vu quand même. C'est quand même extraordinaire.
Farrell qui saute dans les bras de ses équipiers comme s'il avait gagné la Coupe du
Monde. Pour une fois, les Anglais ont eu un peu d'humilité.
Il était en bas de la tribune parce qu'il arrêtait pas de descendre, il tenait plus en place, et c'est vrai que son petit sourire à la fin.
C'est du soulagement. Eddie Jones, qui je crois a dit, bon, je vais peut-être aller voir les entraînements de Fabien Galtier pour voir comment ça se passe, parce que
Fabien Galtier l'avait fait en venant nous voir aussi, peut-être qu'il veut s'inspirer.
Peut-être. Fabien Galtier, justement, qui dresse le bilan de cette Coupe d'automne des Nations et notamment de ce dernier match, qui a permis de voir la mentalité et la qualité des remplaçants.
Ce qui est bien, c'est que les joueurs qui sont rentrés de manière forcée de par l'accord des trois feuilles de match ont cru en eux, ont cru à leur capacité à répondre présent, ont su saisir les opportunités, le rugby international, il faut être là quand les occasions se présentent. Je crois que les joueurs étaient dans cet état d'esprit-là.
Voilà, les occasions se sont présentées, elles ont été saisies par tous ces remplaçants, ces postulants qui vont maintenant évidemment postuler au groupe de titulaires. Quels sont ceux qui, à votre avis, ont vraiment Brice Dulin, évidemment, dont tout le monde parle.
Il a marqué plus que des points. Je pense qu'il va s'imposer. S'il continue à faire des matchs comme ça, je vois pas comment il va pas s'imposer.
C'est-à-dire que pour toi, il devrait être le 15 titulaire lors du début du tournoi.
Quand tu connais un petit peu la philosophie de Fabien Galtier, tu sais que c'est le genre de joueur qu'il adore.
Les ballons hauts, impeccables, le jeu au pied.
Il privilégie la sécurité, Fabien, on le sait. Donc aujourd'hui, s'il réitère des performances comme ça en club, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas titulaire.
Manu ?
Oui pour Dulin. Oui pour Moefana. Ouais. C'est ça.
Moefana, impressionnant.
Belle surprise. Ah, oui pour Villiers, Gabin Villiers, qui a marqué des points. Oh, il venait de très loin. Mais
Raka
il a marqué
a
des
perdu,
points.
Raka,
oui pour Gérassi.
Oui pour Woki
aussi, oui.
Et oui pour ami.
Donc là, il postule pour le groupe, hein, pas pour l'équipe titulaire. Enfin,
Dulin est peut-être le seul qui peut avoir gagné sa place de titulaire sur les matchs.
Après, si on parle des 23, Jalibert sera dans les 23.
Ouais, Jalibert, c'est officiellement.
Ouais, j'ai bien aimé Carbonel. Je suis pas d'accord.
Non,
je suis pas d'accord. Jalibert a fait un bon match, il m'a pas totalement rassuré. C'est bien ce qu'il a fait, mais il m'a pas totalement rassuré. Il est pas au niveau de Romain Ntamack aujourd'hui.
Oui, mais ça on le sait, il a pas l'expérience encore de Romain qui a fait beaucoup plus de matchs que lui en équipe de France, donc déjà c'est une grande différence. Et j'ai trouvé
c'est la première fois que tu fais un match accompli.
Oui, moi je trouve que t'es assez. Moi je suis plus indulgent que toi.
Ouais, pas un bon jeu au pied. On voyait son jeu au pied. Il y a pas peu de ballons qui sont sortis. On a souvent été très très souvent sous pression. Globalement la charnière n'a pas pour moi bien joué au pied. Après, si on reparle des mecs qui peuvent intégrer le 15, Moefana, faudra compter avec lui. Hein.
Ah non, mais moi je le connaissais. Alors, je vais te dire un truc, je ne le connaissais pas.
Premier joueur, c'est à promener dans les années 2000. Hein,
et moi, c'est la première fois que je le vois jouer. Alors,
il a 6 matchs de top 14.
Lui, il joue en équipe de France comme s'il jouait dans son grand jardin, quoi. Tu vois,
mais ça veut aussi dire que ce rugby actuel, va être consommateur de jeunes joueurs très très frais, et que les ces joueurs là qui arrivent, bah finalement ils ont cassé la baraque là. T'es pas sûr que dans un an ils cassent la baraque. Il y en aura d'autres. Je pense que oui, aujourd'hui on est rentré dans une nouvelle dynamique et la fraîcheur de ces joueurs là s'impose et les fait briller très rapidement dans leur carrière.
Je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère de génération. C'est même ça va au-delà, c'est-à-dire que par le passé, Manu, tu sais très bien que du talent il y en a eu à revendre, du talent il y en a eu à revendre, mais souvent il a été mal utilisé, il a été mal mis en confiance. Alors qu'aujourd'hui, toute la différence, c'est qu'ils sont, sont habités par cette confiance. Ces gamins, à 20 ans, ils sont prêts à jouer.
On en revient sur le management de Galtier.
Eh ben voilà, tu veux en parler du management de Galtier.
Ah, la transition.
Eh bien, on y va tout de suite parce que nous avons décidé d'attribuer le frelon d'or de cette tournée d'automne à Fabien Galtier et à son staff.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Un staff qui en quelques mois seulement est donc a rendu ses lettres de noblesse au rugby français avec Galtier et son staff. Jeff, on est quasiment passé du néant à un présent, même pas un avenir, à un présent doré. C'est vrai que la génération actuelle est très talentueuse, peut-être plus que la précédente. Hein, le talent, c'est évidemment le facteur numéro un, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir l'organiser, le canaliser. C'est ce qu'ont réussi à faire le sélectionneur et ses adjoints depuis qu'ils sont en poste.
Ouais, effectivement, il y a un mot qu'a prononcé Manu Massicard il y a quelques instants, c'est le cadre global de cette équipe de France sur et en dehors du terrain. Rien n'est laissé au hasard, et tout ce qu'on me rapporte depuis des mois, depuis le début de cette aventure l'ère de Fabien Galtier, c'est que ce sont surtout aussi des énormes bosseurs. Ils bossent du matin au soir, ils analysent tout à la vidéo, et connaissant Fabien Galtier, c'est pas très étonnant, mais c'est vrai qu'il y a un staff pléthorique Galtier, Ibanez qui se complète parfaitement, Ibanez qui est dans un rôle un peu plus politique, Laurent Labitte pour les arrières, c'est quand même pas n'importe qui, William Servat aussi qui a l'habitude, Karim Ghezal, il se partage pour les avant, et il y a un homme dont on parle pas beaucoup, qui est pas le plus médiatique, mais qu'on a vu plusieurs fois en conférence de presse, c'est Thibaut Giroud. Chargé de la préparation physique, de la performance, il y a une équipe de nutritionnistes, mais vraiment rien n'est laissé au hasard. On en reparlera aussi peut-être la victoire de Sean Edwards. L'objectif de ce staff, c'était de gagner vite et de s'installer dans le top 3 mondial, pour l'instant numéro 4 derrière l'Afrique du Sud, l'Angleterre, Nouvelle-Zélande. Mais c'est vrai que quand on voit les entraînements à haute intensité, tout ce qui se passe, tout est précis, tout est cadré, et les joueurs se font dans le collectif. L'individualité doit se fondre dans le collectif. Je vous rappelle juste les entretiens qu'on avait vus notamment sur France Télévisions de Venceslas Loret et les autres. On voit qu'ils savent où ils veulent aller.
Mais je pense que les autres staffs par le passé ont eu des cadres, ont eu des systèmes de jeu. On peut pas dire qu'il n'y en avait pas.
Non, on parle pas de jeu là, Denis. C'est pas le jeu qui est important.
Non, mais quand tu parles de cadre, je pense qu'il y a l'adhésion d'un discours. C'est-à-dire qu'à une transmission au niveau de Galtier, et surtout à ses convictions. C'est là où tu vois tous les joueurs adhèrent à son système de jeu et à son cadre parce que ils y croient. Je crois que ça part de croyance, tout ça, parce que tu peux pas dire que Saint-André n'ait pas mis à l'époque un système en place qui était basé aussi sur la défense. Ça n'a pas marché, on le sait.
On était inquiet au moment de la nomination de Galtier, de savoir comment allaient s'opérer les relations humaines entre lui et ses hommes.
Ça lui va bien.
Mais le fait d'avoir nommé Ibanez, tu en parlais tout à l'heure, Manu, c'est un peu le Joe Mazo de Bernard Laporte à l'époque.
Ouais, c'est le Eric Béchu aujourd'hui de Fabien Galtier.
Ouais.
Ce duo, pardon, qui avait très très bien fonctionné à l'époque à Montpellier. Je peux vous en parler longtemps. Je les connaissais très bien, Eric, et je sais tout ce qu'il a apporté à Fabien et combien leur duo se complétait. Un sur l'exigence technique et l'autre sur la vie de groupe, les rapports humains, la motivation. Voilà, c'était un l'esprit, un le rugby. Et finalement, tu retrouves très clairement ça dans l'attelage Galtier et Ibanez aujourd'hui.
Mais pour les voir un peu au quotidien, même Jeff les voit, mais c'est pas, tu compares Joe Mazo avec Ibanez, c'est plus du tout le même rôle. Ça n'a rien à voir.
C'est pas la même.
Non, mais c'est pas le duo de travail de Joe qui est formidable.
Ibanez, c'est Béchu.
Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a une vraie connivence, enfin une vraie complicité entre les deux.
C'est-à-dire que Raphaël Ibanez travaille aussi la tactique, travaille le jeu avec Fabien.
Pour avoir fait tous les entraînements à haute intensité, parce que ça commence à me gonfler un peu ce terme, ça reste un entraînement en opposition. Faut pas, voilà. Ils sont très bons en com aussi. Parce que avant les entraînements, ils nous proposent de faire, comment je peux vous dire, le programme programme avec une vidéo, bah, pas une vidéo, mais des tableaux, etc. Voici les objectifs, etc. Ils montrent ça aux journalistes. Donc à chaque fois, on se dit, waouh, ils savent, ils veulent aller.
C'est des génies.
Ils sont, non, mais c'est vrai qu'ils savent, ils veulent aller. Mais c'est bien le faire, c'est bien le savoir, le communiquer, le savoir-faire aussi, quoi. Ils sont bons dans ce domaine.
Mais c'est, on parlait du cadre tout à l'heure, Denis, la différence avec les staffs précédents, c'est que
tout le monde est à sa place.
Ce staff est précis, ce staff communique, ce staff a un projet qui dépasse le rugby. Évidemment que Saint-André savait comment il voulait jouer, évidemment que Bruce savait comment il voulait jouer, mais c'est la vie, c'est l'exigence. Aujourd'hui, Galtier a la chance d'arriver après tout le monde. Il remonte l'équipe de France, elle était tombée plus bas que terre, il est en train de la remonter, c'est facile, c'est plus facile que pour les autres. Ouais. En revanche, tous les joueurs sont mis devant leurs responsabilités, ils viennent en équipe de France, c'est plus pour prendre la prime et ne pas jouer parce que tu prends des branlées, tu viens en équipe de France pour être le meilleur et pour durer. Ça change tout.
Et parmi les hommes clés du staff des Bleus, il y a aussi un garçon dont on parle peu. Il est gallois, il se nomme Sean Edwards. Et c'est une sorte de sorcier de la défense, hein, Jeff.
Ouais, il faut rappeler que dans le projet initial, il ne devait pas bosser avec Fabien Galthié, mais avec Warren Gatland en équipe de France. Hein. C'était le vrai projet de Bernard Laporte. Sauf que les clubs amateurs n'ont pas voulu d'un sélectionneur étranger. Mais Sean Edwards, c'est la pointure, vraiment le spécialiste peut-être en Europe, le meilleur à son poste. Il a 54 ans, il a tout gagné, notamment avec les Wasps, où il a connu Raphaël Ibanez. Puis avec le Pays de Galles, 4 tours en destination avec 3 grands chelems à la clé. Et c'est vrai que pour l'avoir vu bosser aussi, il s'est mis rapidement au français, en tout cas en baragouinant un petit peu pour se faire comprendre. Et c'est quelqu'un qui est très pointilleux, très exigeant, et il a une main de fer et ça paye. Et vraiment, quand il arrive en équipe de France, les Gallois ont fait vraiment la tête, qui ne reste pas avec eux, car c'est vraiment le meilleur à son poste.
Voilà, Sean Edwards, un Britannique au service des Bleus, exception qui confirme la règle, parce qu'une nouvelle fois hier, on ne peut pas dire que l'arbitre, en l'occurrence l'Irlandais, Monsieur Brace, ait vraiment favorisé les Bleus. On va en parler tout de suite dans la boîte à gifles. Tiens.
RMC, entre les poteaux,
la boîte à gifles.
Oui, parce que si on s'est régalé durant la quasi-totalité de la rencontre, l'épilogue nous a un peu frustrés. Le règlement, étonné, prolongation, suivi de la mort subite. Est-ce que cette formule de la mort subite convient vraiment au rugby? Moi, j'ai eu l'impression durant cette prolongation que tout le monde cherchait surtout à éviter la faute plutôt que de jouer. C'est un peu frustrant, Jeff.
Très frustrant. En plus, le règlement d'une compétition qui est nouvelle, c'est rien y comprendre parce que c'était pas les mêmes règlements pour les matchs de barrage, les autres matchs de classement. Là, c'est la compétition qui a décidé à sa discrétion de choisir cette formule comme ça, avec pourquoi pas des tirs au but après cette prolongation. C'est incroyable, cette mort subite.
Mais il y avait quand même un cadre. On savait avant le début du match que ça allait se dérouler comme
plus ou moins. Hein.
Plus ou moins.
Ça dépend qui, plus ou moins.
Non, mais déjà, qui pensait qu'on allait faire match nul?
Mais personne,
oui,
Personne n'avait vraiment analysé tout ça. Mais la mort subite, ça peut être pour moi une très très bonne idée. Si c'est une mort subite, avec des essais, pas une pénalité.
War on drop.
Ouais,
parce
encore.
Qu'un drop, si tu mets en situation, c'est pas pareil.
Du coup, sinon, si c'est une mort subite, avec une pénalité qui peut faire vraiment la différence, les équipes vont pas trop se livrer, on va avoir encore plus de jeux au pied, et ça va être une fin de match un peu en eau de boudin. Alors si c'est un essai, c'est vraiment bien.
Oui, et puis les équipes feront tout pour marquer un essai, donc il n'y aura plus de pénalité.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on ne compte plus les pénalités, on peut faire toutes les fautes qu'on veut quand même. Non, quand même pas.
Mais bon, après, tu te rapproches de la ligne.
Oui, tu peux jouer des
et la moindre décision arbitrale va être...
Manu, moi, ça m'a plu.
Manu, ça t'a plu, toi, ouais.
Moi, ça m'a plu. Je vous raconte l'histoire de la vie de la rédaction hier à Midol. Il y avait une dizaine de journalistes qui étaient debout, certains qui hurlaient dans tous les sens.
C'est la même chose à
RMC. Match, on avait l'impression de vivre une finale de Coupe du Monde. Ouais, on avait tous des masques, on est très prudents. mais blague à part, on avait tous l'impression de vivre une finale de Coupe du Monde.
C'était génial. C'était vraiment le suspense aussi a fait que la physionomie du match a été extraordinaire.
Ouais, donc c'est bien. Pour une fois qu'on innove, alors certes, c'est pas parfait, vous avez raison, le poids de la pénalité... Il faudrait peut-être arriver à faire... je sais pas, il faut réinventer une règle là-dessus.
Parce que l'essai, c'est pas mal, l'essai. Hein.
T'as quelque chose qui dynamise un peu et qui monte le spectacle, quoi.
Il y avait 4 millions de téléspectateurs hier pour suivre ce match, voilà, pour une Coupe de
Nations. Et 2000 au stade,
c'est pas une vraie réussite à la télé.
Ouais. C'est pas une vraie réussite, tu dis ?
Ouais.
Ah si,
ça fait moins que France-Italie le samedi.
Oui, mais t'as pas l'équipe de France là. T'es dimanche après-midi, c'est pas le soir.
C'est pas l'équipe de France.
Non, mais c'est pas le soir.
Je suis d'accord, c'est pas du prime time.
Eh oui, c'est pas du prime time.
Mais je pensais qu'on allait faire plus. C'était quand même en France, en Angleterre.
Ouais. Oui, mais la farce,
qu'on allait en prendre
40. La farce, tout le monde, monde ne voulait pas voir cette mauvaise blague à la télé. Et ben, du coup, ils sont passés à côté de quelque chose d'énorme. Finale et décision, donc, qui ont quand même, on va l'entendre, frustré et agacé Fabien Galthié, juste après le coup de sifflet final au micro de France Télévisions. Ensuite, il s'est un peu calmé en conférence de presse, mais là, à chaud, devant la télé, il était un peu énervé quand même.
C'est frustrant parce que je crois que le match s'est joué évidemment à pas grand chose, à des décisions, surtout à des décisions, c'est ça qui est gênant. Le match se joue à des actions, ça pose pas un problème, mais à des décisions, c'est très frustrant pour nous. Sinon, j'espère que les joueurs et notre équipe de France a rendu, a donné du plaisir à nos supporters. Voilà, j'espère.
Voilà, messieurs, sur les réseaux sociaux, hier, les supporters de Bleu étaient très remontés contre l'arbitrage de M. Brice. Il nous a vraiment enflé comme ses prédécesseurs.
Moi, je trouve un peu trop.
Oui, mais évidemment, c'est un déversoir de haine, les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on s'est fait enfler par M. Brice? Manu, non, je vais demander ton avis, ensuite celui de Denis.
Ouais, il y a 3-4 décisions qui tournent à notre désavantage. On voit beaucoup la vidéo avec Billy Venipola qui relâche le ballon au sol. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a en avant là-dessus. Après, on fait des fautes, évidemment, mais dans les dernières décisions, il ne nous est pas favorable. Après, on avait qu'à tenter le drop, hein.
Ouais.
Ça, c'est pas l'arbitre. C'est
ouais, il était un peu loin.
Il était loin. Il a essayé, il s'est placé dans l'axe, le petit Carbonel, mais il était loin.
Ouais, c'est là où on manque d'expérience. Parce que
alors, moi, il y a une faute qui, pour moi, et personne n'en a parlé, ce qui est bizarrement, c'est à 1 minute 30 du coup de sifflet final. On mène 19 à 12. Il y a un Anglais qui fait un en avant. Raka récupère le ballon, tape loin. L'Anglais derrière récupère, il n'y a pas du tout avantage, il faut revenir à la mêlée.
Ah oui.
Il reste une minute à jouer.
C'est la faute de Raka.
Le match, Denis. Non, parce que l'avantage n'est pas, tu dois revenir à l'avantage. Raka fait pas de faute, il tape loin. Systématiquement, tu tapes loin. Mais
pas
l'avantage, tu tapes dans les bras d'un Anglais, tu n'as pas avantage.
Tu consommes l'avantage.
Ah, mais ça, c'est l'interprétation de l'arbitrage. Et souvent, tu sais très bien qu'ils reviennent à l'avantage. Mais bon, pour moi, c'est là où je trouve que c'était sévère.
Bon, il n'y a pas de scandale absolu non plus. Non.
En conférence de presse après, Fabien Galthié s'est un peu calmé. Une décision, c'est une décision. Ça fait partie du jeu.
Voilà, défaite qui va nourrir en tout cas le sentiment de revanche dans les rangs de l'équipe de France. Les Bleus qui seront de retour à Twickenham pour le tournoi dans 14 semaines. Hein, j'ai calculé avec mes petits doigts. Le 13 mars prochain.
Est-ce qu'on va leur mettre à Twickenham avec la grosse équipe.
C'est bien de pas avoir gagné.
Ouais,
d'accord.
Ouais, finalement, et ce match va prendre une ampleur considérable. Là, ça va être un vrai énorme crunch. Donc le 13 mars prochain avec une équipe qui sera sans doute différente, mais on l'espère, le même état d'esprit. Merci messieurs les poteaux.
Merci.
Et voilà, cette coupe d'automne des nations, finalement, hein, on est pour.
Pas mal, cette coupe Covid.
Merci les garçons, bonne semaine.
Salut,
et on se retrouve la semaine prochaine.
Ciao.